soit je dis pas ce que j'ai écrit, soit... Non mais c'est bon, ça va aller comme ça.
C'est mieux.
Sauf qu'il est en face de ce que j'ai écrit. Donc du coup, ça va pas. Bon, alors ce matin, il n'y aura pas de diaporama. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 7 à 11. Regardez donc, tu veux l'afficher, Cyril ? D'accord, okay, je vais attendre un petit peu alors. C'est bon ? Ok. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir à Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci, nous appartenons à Christ, nous aussi tout autant que lui. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donné pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas, car je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne serait pas capable d'intimider que par des lettres, comme on le prétend. Ces lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible et sa parole ne mérite pas l'attention. Que celui qui tient ses propos en soit bien convaincu. Nos actes, que nous serions chez vous, seront conformes à ce que nous vous avons écrit dans nos lettres quand nous sommes loin de vous. Alors, c'est dans un contexte difficile que Paul écrit cette lettre à l'église de Corinthe. L'église, elle est un petit peu fragile, elle est un peu fragilisée. Et en effet, cette église se trouve en Grèce, en Grèce antique, une des choses qui explique cette difficulté, c'est aussi le contexte dans lequel cette église se trouve. Le système de pensée grec du 1er siècle n'est pas vraiment favorable à un Dieu unique, et de plus, l'autorité de Paul, elle est contestée. Et cette lettre a entre autres pour but de justifier son autorité et sa légitimité pour instruire et enseigner ici à Corinthe. Et le début de ce passage, il interpelle. Regardez la réalité en face. Ou encore, selon les versions, regardez-vous à l'apparence. Cette phrase en dit long sur l'état d'esprit des Corinthiens, probablement prompt à juger, est bien souvent attiré par le paraître et l'apparence. Visiblement, Paul ne rentre pas dans la catégorie des beaux parleurs, des hommes éloquents de la Grèce antique, et certains se servent de cet argument pour mettre en doute sa légitimité. Pourtant, Paul, il affirme ici qu'il appartient à Christ, qu'il a autorité, qu'il a l'autorité de Christ, tout comme ceux, et en tout cas il appartient à Christ, tout comme ceux qui sont persuadés d'appartenir eux aussi à Christ. Et Paul, dans ce verset, ne remet pas en doute l'appartenance à Christ d'autrui, et en effet il sait que Dieu seul juge et sonde les cœurs. On voit ici que Paul, qui est rempli de zèle et annonçait l'évangile avec vigueur, reste un enfant de Dieu, tout comme ses frères et sœurs à Corinthe et ailleurs. Et bien sûr, Paul, il a un rôle bien spécifique, mais au final, si nous croyons sincèrement à Christ et que nous acceptons que Jésus-Christ est mort à notre place et ressuscité pour nous sauver, alors nous appartenons à Christ, au même titre que Paul ou que chacun de nos frères et sœurs. Paul nous parle ensuite de fierté. Pas celle qui nous pousse à être égocentrique et orgueilleux, non, mais la fierté en Christ. Paul se montre fier, et il le reconnaît même un peu trop fier, de l'autorité que Christ a placée en lui et en ses compagnons. Sachons bien où placer notre fierté. En nous ou en Christ? Sommes-nous fiers de nous ou de ce que Christ a fait dans nos vies? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Car notre propre fierté peut, à contrario, nous éloigner de la véritable source de toute fierté, de toute joie, Christ. Alors, nous n'aurons pas à rougir. Et comme Paul, ne nous arrive-t-il pas jamais d'être fiers de quelque chose? En parler à quelqu'un, lui dire la chose pour laquelle nous sommes fiers, et que la personne en face trouve cela en réalité ridicule, elle me dit, mais pourquoi? Mais soyons rassurés, il n'en est rien si nous nous montrons fiers de Christ et en Christ, auquel nous appartenons. Et à l'image de Paul, j'étais fier cette semaine. J'étais fier de pouvoir dire à mon collègue de travail que je pouvais prier Dieu pour tous les sujets, sans exception, pour tous les sujets. Et je n'avais pas à rougir, et même si je pense qu'au fond de lui, il devait quand même bien rigoler, mais qui sait ? Peut-être se questionnait-il ? Ça, je ne sais pas. Et si nous pouvons être fiers, c'est parce que nous sommes sur cette terre pour construire et non pour renverser. Et à l'époque des Corinthiens, il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants qui utilisaient leur autorité de docteurs, d'enseignants, qui étaient non approuvés par Dieu pour détruire l'église que Paul avait établie à Corinthe. Et Paul, lui, au contraire, construisait. Il construisait au sens propre, en établissant des églises à travers le monde connu de l'époque, et au sens figuré, en fortifiant, en encourageant et en exhortant les croyants. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, dit Paul aux Éphésiens. Et il en est de même pour chacun. Dieu est venu sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et Paul annonçait l'évangile de paix et exhortait chaque croyant à se montrer fier en Christ, à avoir du zèle pour annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle dont nous ne devrions jamais avoir à rougir. Alors, lorsqu'on lit les récits de Paul, on a bien vite l'impression que Paul y met la barre assez haute, quand même. En effet, les lettres aux églises, ces épîtres, sont souvent, élancées, remplies de zèle et d'éloquence. Elles sont bien écrites et encourageantes. Mais lorsqu'on lit certains passages, lors de notre lecture personnelle ou autre, nous pouvons être édifiés, nous pouvons être encouragé par ses écrits, mais aussi intimidé par la portée de ses paroles. Et Paul, dans ce passage, ne souhaite pas intimider les Corinthiens par ses lettres. En effet, selon ce que pensent certains, ses lettres sont, contrairement à sa personne, éloquentes, sévères et énergiques. Pour ses accusateurs, il y a une différence notable entre le discours de Paul et ses lettres, en tout cas entre sa personne et ses lettres. Mais il n'en est rien. Au contraire, il veut reprendre, certes, mais aussi encourager. Il veut aussi exhorter, enseigner ses destinataires. Et loin de lui, l'idée d'intimider les Corinthiens et que l'évangile qu'il prêche soit contre-productif et n'honore pas Dieu. Le message de l'évangile, il est radical. Il est rempli d'amour, bien sûr, bien évidemment, mais difficile à accepter et impossible à mettre en application si nous comptons sur notre propre force. Quitter son ancienne vie et renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu et accepter Jésus comme notre sauveur n'est possible que par la grâce de Dieu qui accomplit tout en tous et qui produit le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, nous dit la parole. Alors, ne soyons pas intimidés par l'exigence de la parole de Dieu, par son message radical, mais au contraire, encouragés, repris s'il le faut, et exhortés afin d'être les imitateurs de Christ. Et prenons pour nous les paroles de Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et Paul, je l'ai dit tout à l'heure, n'était probablement pas très éloquent lors de ses passages à Corinthe, du moins selon ses accusateurs et selon les standards de la Grèce antique. Mais que ces accusations elles soient fondées ou non, nous pouvons voir à travers toute la Bible que le Seigneur utilise d'humbles serviteurs pour annoncer cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Il utilise des vases d'argile pour porter un trésor. Gardons également en tête que Jésus est né et est mort de façon méprisable aux yeux des hommes. Nous ne brillons pas forcément par notre éloquence, par notre charisme, par notre connaissance intellectuelle, mais à l'image de Moïse qui avait de la peine à s'exprimer, à parler en public, et qui pourtant a guidé le peuple d'Israël pour sortir d'Égypte, soyons encouragés à partager autour de nous cette merveilleuse nouvelle qu'est l'Évangile. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, déclare l'Éternel au successeur de Moïse, Josué. Prenons ces paroles comme un encouragement pour nous, dans cette belle mission que d'être des témoins de Jésus-Christ. Et n'oublions pas de placer notre fierté en Jésus seul. Nous ne sommes que peu de choses, mais nous portons en nous un trésor qui vaut la peine d'être vécu et partagé. Alors, en avançant dans le texte, on voit à partir du verset 11, enfin au verset 11, que Paul répond à ses accusateurs et leur affirme qu'il aura les mêmes exigences lorsqu'il sera à nouveau parmi eux. Et on peut lire quelques chapitres plus loin, au chapitre 13 et au verset 10. Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage, avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour renverser. Le but de Paul est d'éviter que les problèmes, notamment les faux enseignements, ne mettent à mal l'Église de Corinthe. Et c'est pour cela qu'il défend avec autant de vigueur, avec autant de force et d'énergie son apostolat et son autorité qui lui a été reçue par le Seigneur. Et encore une fois, Paul ne se vante pas. Et Paul n'est pas prétentieux, car il se sait approuvé par la seule autorité qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ. Mais ce passage, il nous montre aussi l'importance de mettre à la même hauteur nos actes et nos paroles. Paul affirme qu'il le fait, et ses écrits et les fruits qui en résultent, les fruits de ce qu'il a fait, le prouvent bel et bien. Et nous, sommes-nous toujours à la hauteur de nos paroles? Et je le dis pour ma part, non. mais j'y travaille. Qu'il est facile de dire de belles paroles et qu'il est difficile de les mettre en application et d'agir quand il le faut. Car oui, Paul nous parle d'actes et la Bible foisonne d'exemples de personnes qui ont agi pour leur Seigneur. Et n'y a-t-il pas un livre dans la Bible qui s'appelle « Les Actes des Apôtres » Et Jacques 2, au verset 21, nous enseigne ceci, 21 à 26. « Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi, agissant avec ses œuvres, et qu'il accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-il pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers, elle les a fait parvenir, elle les a fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Croire sans agir et sans servir notre Seigneur n'a aucun sens. Ça me fait penser à une petite anecdote personnelle. Alors, j'aime bien faire de la Via Ferrata. Et sur mon sac à dos, quand je fais de la Via Ferrata, il y a toute une série de passants qui servent à accrocher des mousquetons sur l'extérieur du sac. Et je n'oublie jamais de les accrocher. Avant, j'ai déjà acheté, du coup, quand j'ai vu ça sur mon sac, j'ai dit, mais du coup, il faut que j'achète des mousquetons. Donc, j'ai acheté une petite dizaine de mousquetons pour les accrocher sur les passants. Et je n'oublie donc jamais de les accrocher quand je pars faire de la Via Ferrata. Mais en vérité, ceux qui font un peu de Via Ferrata, sans doute un petit peu, j'en utilise que un ou deux. Il n'y en a pas beaucoup que j'utilise. Le reste, c'est juste pour le fun. Et un jour, il y a un ami spéléo qui m'a dit, avec qui je faisais un entraînement falaise, il m'a dit, mais ils ont l'air bien neufs, tes mousquetons. Et ben oui, c'est vrai, il a raison. Mais j'aime bien les entendre s'entrechoquer. Je suis fier, je sais pas pourquoi, mais je suis fier d'avoir cet attirail sur mon dos. Vous trouvez ça ridicule, hein? Et pourtant, c'est vrai. Et si ça concerne notre foi, les autres ne trouveraient pas cela également ridicule si nous ne sommes pas en accord avec ce que nous faisons, ou avec ce que nous disons plutôt. Agir et servir ne signifie pas forcément être visible. Lorsqu'on construit, par exemple, un gratte-ciel, une tour, ou un bâtiment de manière générale, la très grande majorité du temps, du budget, de tout ça est consacré à l'étude, au plan, aux fondations. Le reste, c'est bien souvent qu'un... Je simplifie, mais c'est souvent qu'un mécano géant, en fait. C'est juste de la construction, c'est finalement la partie la plus simple du travail. Et il en est de même pour notre service, pour nos actions. Tout n'est pas forcément visible, et c'est bien mieux ainsi. Soyons humbles devant Dieu et devant les hommes, car il n'y a qu'en Dieu que nous devons placer notre fierté. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation, nous dit Romains au chapitre 5. Alors, pour conclure, dans la Bible, la fierté est un atout, à condition de la placer au bon endroit. Ne devons-nous pas tout à celui qui nous a rachetés? à celui qui nous a sauvés et en qui nous pouvons placer toute notre espérance. Jérémie 9, verset 23 nous dit ceci, « Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté en ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Croyons-nous que nous devons tout à Christ ? Pas facile de ne pas tomber dans l'orgueil de penser que ce que nous faisons est le fruit de notre travail ou de notre force. Pourtant, d'un souffle, le Seigneur peut réduire tout travail à néant ou au contraire le faire fructifier. Dieu crée en nous le vouloir et le faire, ne l'oublions jamais. Et Paul l'avait bien compris. Et c'est pour cela qu'il place sa fierté en Jésus seul. Pourtant, il aurait eu bien des raisons de se montrer fier de son travail et de ses actes, mais il n'en est rien. Qu'il soit un exemple pour nous qui avons été sauvés par Dieu. Plaçons notre fierté au bon endroit et nous n'aurons jamais à rougir, car c'est Dieu seul qui accomplit tout en tous. Voilà ce que j'avais à vous partager, mais je me dois d'ajouter quelque chose à ce message. Car, à première vue, je n'ai aucune raison de me réjouir et de me montrer fier en Christ. J'ai vécu cette semaine probablement la plus grande désillusion de ma vie. Mais pourtant, mes amis et mes frères et sœurs, j'ai compris tellement de choses et grâce à cette épreuve, j'ai trouvé ce qui me manquait réellement. J'ai trouvé la véritable joie. J'ai enfin trouvé ce trésor que j'ai tant cherché. Et aujourd'hui, plus qu'à jamais, je peux vous l'assurer, nous pouvons être fiers en Christ et fiers de Christ, même dans nos détresses, car lui seul nous offre la véritable joie et l'espérance. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin, et voilà plutôt, pour être plus juste, ce que le Seigneur avait à partager ce matin.